Oui, moi j'avais une question sur Louis Malle, le documentariste, parce qu'on n'a pas encore évoqué cette dimension de son cinéma, mais il me semble, enfin tu le diras mieux que moi, que dans le cinéma de fiction de Louis Malle, il y a quelque chose de profondément documentaire aussi, y compris dans Zazie. Dis-nous d'abord pour le cinéma documentaire.
Alors, ce que je trouve extraordinaire chez Louis Malle, c'est qu'il a, voilà, c'est un grand documentariste, c'est très méconnu. Alors, c'est un petit peu dommage, il faudrait carrément faire une, je pense, une rétrospective sur Louis Malle, documentariste.
Ça sert la paupière.
Donc, il a, pourquoi pas, ou à Cahors. Dans le Lot, en tout cas, il a fait un film sur l'Inde qui s'appelle Calcutta. Il a fait Humain, trop humain, dans lequel il filme les usines Peugeot. Il a fait Place de la République, dans lequel il filme donc plutôt les classes moyennes françaises. Il a fait La poursuite du bonheur, dans lequel il filme les immigrés aux États-Unis. Puis il a fait aussi God's Country, qui est un film sur la campagne de Ronald Reagan. Donc, et effectivement, ça c'est pour vraiment les films purement documentaires, j'en oublie. Et puis même dans ses films de fiction, c'est vrai qu'il filme de manière très documentaire. Enfin, il filme à la manière d'un documentariste.
Dans Vie privée, c'est troublant quand même.
Alors Vie privée, c'est un film Bardot, aussi extraordinaire, parce que c'est un mois avant la mort de Marilyn Monroe. Et le film n'est ni vraiment un documentaire, voilà comment il le dit, c'est ni vraiment un documentaire, ni vraiment un biopic, ni vraiment une fiction. Ce serait un peu un mélange des trois. Et dans ses films, il a filmé vraiment un tableau de la société française, à savoir les ouvriers, les prostituées, les classes populaires, la bourgeoisie, les militaires, les marins, les truands, les religieux, bien sûr, parce que je vous rappelle qu'il a aussi, c'est très important, une éducation religieuse. Il a été donc, il a été élevé par les jésuites, d'où le film d'ailleurs Au revoir les enfants. Les résistants, les collabos, les nazis. Donc, il a filmé vraiment un tableau très, très complet de la société française. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez prodigieux. Et tout ça, c'est fait avec une très grande facilité.
L'air de rien, un peu.
L'air de rien, voilà. Ouais. Il passe d'un genre à un autre. Et même dans ses films, voilà, il mélange différents genres. Et entre autres, évidemment, comme tu le suggérais, Monique, le documentaire. Alors le documentaire, oui, je voulais vous dire pourquoi il fait des documentaires, parce qu'il a envie aussi, il a fait des films avec beaucoup de moyens, il a envie de revenir aussi à un cinéma très simple. Le documentaire, c'est quoi? C'est on prend une caméra, on va dans la rue, on a un assistant, et puis voilà, c'est tout. Donc il a envie de revenir aussi à la simplicité. Le documentaire, c'est la simplicité du cinéma, c'est le cinéma dans toute sa simplicité. D'ailleurs, on voit un cinéaste comme Alain Cavalier, qui aujourd'hui, qui a tourné avec les plus grands, qui a tourné avec Delon, et qui maintenant fait des films avec une petite caméra. Et c'est ce que voulait aussi Louis Malle, c'est-à-dire parfois revenir au cinéma dans tout son dénuement, dans toute sa simplicité. Et il l'a fait très très bien, et c'est très méconnu, et c'est dommage.
Il faut pas oublier de dire, juste dans Zazie, à un moment donné, dans le taxi, au début du film, à propos de la nouvelle vague, elle dit, et c'est un peu, la fin de la phrase est un peu chuintée, ouais, la nouvelle vague, on l'en...
Oui.
Voilà. Donc même à l'intérieur... C'est elle, c'est vrai. Ils sont en train de discuter...
Oui,
Donc la nouvelle vague, on l'en...
Ouais, c'est dit comme ça.
C'est pas ça. C'est la nouvelle vague, non, j'ai réécouté hier. La nouvelle vague, elle tombe. Je pensais que c'était...
Il relaie le discours.
Voilà, c'est-à-dire qu'il s'inclut dedans quand même, d'une certaine façon.
J'ai oublié de dire qu'il avait une admiration aussi pour le groupe Medvekine, ces ouvriers de la région de Besançon et de Sochaux qui ont fait du cinéma. Donc il a mis aussi, alors qu'on dit qu'il ne fait pas de politique, il a mis en valeur aussi ce groupe d'ouvriers. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui venait de la bourgeoisie aussi, qui a filmé les ouvriers, qui a mis en valeur donc ce groupe d'ouvriers qui réalisait des films. Donc voilà, oui, il a aussi...
C'était Chris Marker qui leur avait donné les moyens matériels.
Exactement,
de filmer,
le groupe Medvekine. Donc il était aussi là-dedans. Alors quand on dit que par exemple, Louis Malle n'est pas politique, je trouve qu'il était très largement politique, mais l'air de pas y toucher.
Oui, voilà, il fait pas des films politiques, mais il fait politiquement du cinéma, pour reprendre toujours le truc de Godard.
Donc voilà.
Oui.
En tout cas, c'est une œuvre qui doit être complètement revisitée, c'est sûr.
Oui, mais j'ai trouvé quelque chose qui peut-être venir se greffer sur ce que tu dis. Il s'agit du documentaire Place de la République de 1974, que je n'ai pas vu. Il dit que, ils ont planté leur caméra à Place de la République, donc à Paris, et puis ils ont attendu que les passants leur demandent ce qu'ils faisaient là et engagent la conversation. Alors voilà ce qu'il dit. C'est du cinéma direct poussé à l'extrême. Et en même temps, Il s'en dégage une impression de romanesque, comme si nous avions inventé ces passants rencontrés par hasard, comme s'ils sortaient d'un livre de Céline ou de Queneau. Donc c'est là qu'on voit que se rejoignent et se superposent cinéma de fiction et de non-fiction. Puisque là, il fait référence à des personnages de Queneau qui lui semblent surgir là sur la place de la République devant sa caméra. Alors, une autre remarque, appelée par ce que tu as dit, tout ce que tu as évoqué sur toutes les classes sociales que Louis Mas, le documentariste, a dépeintes, a mises en scène, elles y sont finalement dans Zazie. Tout ce que tu as dit, les militaires, les ecclésiastiques, les étrangers, la petite bourgeoisie, l'armée du salut, il y a vraiment, sous une forme en effet burlesque, échevelée, parodique, sous la forme d'un collage, une sorte en effet de grand kaléidoscope de la société française. Et puis une dernière chose, il me semble aussi que, là je me trompe sans doute, mais tant pis je le dis, peut-être vient du documentariste qu'il a été, une figure de style cinématographique que j'ai vu 3 fois dans ses films, mais je n'ai pas tout vu, c'est le travelling latéral qui lui permet de suivre un personnage qui déambule la nuit dans les rues de Paris. C'est ce que fait Zazie, à un moment donné, quand elle est seule et perdue vers la fin du film, avant le moment où elle s'effondre endormie sur le capot d'une voiture. Il la suit depuis une voiture qui est dans la rue, et elle marche et on voit défiler les cafés.
C'est presque documentaire.
Ça, c'est documentaire.
Ouais, carrément.
Même chose dans L'ascenseur pour échafaud, lorsque le personnage joué par Jeanne Moreau part en quête de son amant qui ne répond plus. Elle déambule sur les trottoirs de Paris et passe devant les cafés dans lesquels elle entre pour demander si on l'a vu. Et il y a aussi une figure de style semblable, de l'errance et du mouvement erratique à la fois désespéré et étrange dans Le Feu Follet, où le personnage joué par Maurice Ronet déambule dans la nuit avant le geste du suicide final, et il le filme de la même manière. Alors, je sais pas, qu'est-ce que ça vaut comme impression? Cette idée que le documentaire saisit comme ça, de manière aléatoire, la vie nocturne, qui est capturée d'une manière totalement imprévue au fil de la déambulation de ces personnages, Zazie, Jeanne Moreau et puis Maurice Ronet.
Mais ça, c'est vraiment l'esprit Nouvelle Vague, c'est-à-dire intégrer une parcelle de documentaire dans le cinéma de fiction. C'est la fameuse phrase de Godard, tout grand film est un documentaire aussi sur un acteur. Il y avait ça, et tout grand film est imprégné d'une part de documentaire. Donc, et d'une part d'autobiographie aussi sûrement, parce que je crois que chez Louis Mal aussi, il y a cette dimension très forte aussi autobiographique. En tout cas, c'est un cinéaste qui était capable, à la fois, c'est ça qui est assez extraordinaire, de diriger des milliers de figurants dans Viva Maria, et puis de tourner avec des acteurs totalement inconnus, parce que je vous rappelle aussi qu'il a tourné avec des stars et des acteurs inconnus, et cette façon justement de mélanger un peu tout, de pratiquer un cinéma qui arrive à faire un petit peu de tout avec une très grande facilité, c'est-à-dire l'air de pas y toucher, comme tu l'as dit, Jean-Hugues, est très impressionnante. Pour revenir sur Le Feu Follet, peut-être qu'on va pas trop parler du Feu Follet. Le Feu Follet, pour moi, ils sont chef-d'œuvre. Enfin, c'est vraiment un film très très impressionnant.
Moi, je trouve que c'est un film très noir.
Très noir, mais on sent qu'il était travaillé à ce moment-là par des obsessions, par quelque chose de très encore un scandale, parce que c'est de Drieux La Rochelle, un auteur quand même sulfureux.
C'est
un film qui parle du suicide. Donc il y a cette phrase terrible à un moment donné, dit par René. Sur un ton un petit peu bressonien, comme ça, il dit « Si tu es mon ami, aide-moi à mourir ». Il y a cette phrase terrible. Enfin, un film qui est glaçant, qui est très...
Oui, c'est ça.
Qui est très dans l'œuvre de Louis Mal, un petit peu, là aussi, un peu comme ça, dans le métro, une sorte de
film très à part pour son temps, quoi.
Quand même. De joyau un peu noir, un peu, enfin, de... de mais peut-être un des sommets, en tout cas, de son œuvre.
Il y a le voleur aussi, quand même, qui est assez intéressant, sur ce kleptomane joué, au-delà de ça, de voleur, gentleman cambrioleur joué par Belmondo, qui est assez exceptionnel, hein, parce que c'est l'air de rien, comme ça, il dévalise tous les bourgeois, tous les gens qu'il connaît, en sachant que, en fait, c'est sa jouissance. Alors là aussi, est-ce qu'on pourrait voir une métaphore, si tu veux, du cinéaste avec les producteurs, on peut toujours extrapoler. Et Jean-Claude Carrière, justement, dit qu'en fait, c'est sûrement le meilleur rôle de Belmondo. Et c'est un. Ouais, après. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce film, en tout cas, on est en quelle année? On est en 67. Belmondo, même s'il a déjà tourné avec De Broca, il fait pas trop son numéro qu'il va faire dans les 5 ans après. Ça va être insupportable quasiment jusqu'à l'itinéraire d'un enfant gâté. Mais là, c'est un rôle vraiment complet où tout est sur lui, et avec pas beaucoup d'acteurs autour d'ailleurs.
Oui, mais peut-être, oui, le cinéma comme un art du cambriolage.
Voilà.
Oui, il s'agit de voler et de partir. Et c'est un peu ce que tu dis pour Louis Malle, c'est-à-dire qu'il n'affecte pas d'une manière ostentatoire des poses politiques ou autobiographiques. Il dit des choses, il les suggère, et puis il se retire dans une sorte de distance élégante, et on ne peut pas saisir les confessions. Mais pour juste compléter ce que tu as dit sur la dimension autobiographique du Feu Follet, j'ai pris plusieurs phrases. Il dit, dans un sens, je cherchais à me cacher derrière Drieux, La Rochelle, derrière Rigaud, donc le suicidé qui sert de modèle au personnage du Feu Follet. Derrière cette histoire qui n'était pas la mienne, mais en fait, elle l'était. Je me sentais très concernée. Je venais aussi d'avoir 30 ans, et c'est toujours un moment difficile. Je pensais, comme Alain Leroy, que ma jeunesse était finie. J'étais Alain Leroy. Alain Leroy, donc le Feu Follet.
Hein. Et Rigaud, c'est à quel âge? C'est plus jeune, non? C'est 24
Rigaud, 29.
29 ans.
Ah oui, là, d'accord. C'est vraiment troublant.
Ah, d'accord, hein. D'accord.
Drieux, 30 ans, l'autre, 29. Et lui, il a 30 ans, donc il fait... Le film au moment où les autres ont choisi de s'absenter. Mm-hmm. Oui, donc il y a aussi ça qui est émouvant chez Louis Malle, cette dimension de confidence, mais avec une pudeur et une réserve et une manière de transformer.
Et il se confie dans Voir les enfants.
Oui, alors
qu'à la fin, c'est sa voix qu'on entend. À la fin, vous vous rappelez, donc la dernière plan du film.
Non, moi je m'en rappelle pas. Vas-y.
Ah, dernier plan du film qui est quand même extraordinaire. Donc il se confie et il dit une phrase très simple. Il dit des années ont passé et je n'oublierai jamais ce matin de novembre, donc où les enfants donc sont appelés un à un dans la cour et où son copain qui s'appelle Bonnet, hein, mais son vrai nom c'est Kippelstein, s'en va donc avec le prêtre qui choisit de partir aussi avec eux. Et on apprend donc qu'ils sont morts dans le camp d'Auschwitz. Alors, ils sont que c'est la voix de Louis Malle qu'on entend à la fin. Et vous savez peut-être, donc, anecdote, hein, le dernier plan du film lui a été soufflé par Renato Berta, puisque c'est un plan donc, où on voit juste une porte ouverte. Et puis cette porte, évidemment, laisse suggérer, voilà, après le départ des enfants vers les trains de la mort. Alors, ce film à revoir aussi. Bon, dans ce film, il y a, à mon avis, une scène extraordinaire. C'est une scène dans un restaurant où un vieux monsieur juif, donc, qui a envie de manger dans un restaurant, mais se fait en fait sauver par des Allemands. Les Allemands ont envie de faire la fête, ce jour-là, de s'amuser. Ils disent, mais foutez-moi le camp, et la Gestapo est là, et donc veut dénoncer le...
Oui, enfin, pas la Gestapo, les Français.
Les Français. Oui, donc, il y a la Gestapo qui mange dans un coin, les Français, la milice française, et la milice française est prête donc à dénoncer ce monsieur qui mange tranquillement. Et là, les nazis, à la surprise générale, disent « Mais allez, foutez-moi le camp, on a envie de manger tranquille.
Ouais, » Les zélés de la police donc, qui font un peu un scandale.
Et pendant ce temps, il y a la maman du héros, donc le héros, c'est Louis Malle, qui mange avec Bonnet, donc Bonnet, le jeune, son meilleur ami juif, qui va être quelques jours plus tard capturé et déporté. Et donc, il montre toute la complexité de l'époque, toute l'ambiguïté de l'époque, à travers donc une scène anecdotique dans un restaurant, mais qui est magnifiquement filmée, très, très forte, très émouvante. Et Louis Malle, c'est ça aussi.
Et très accusatrice. Très accusatrice de la collaboration française.
Ah ben évidemment. Et puis montrer toute l'ambiguïté, toute l'étrangeté d'une époque complètement bizarre. Et terrible.
Époque noire.
Un film à revoir, en tout cas, un film à revoir avec notamment François Négret,
Ah oui, oui, François Négret qui joue, ah oui, qui jouera dans de Bruit et de Fureur. Ouais, ouais,
exactement. Ouais, ouais, ouais. Qui joue rôle de cuisinier, bah justement.
Ouais. Collabo
qui va dénoncer. Qui va dénoncer.
Et après, il y a cet autre film, en fait, aussi, qui vient juste après, c'est Milou en mai, avec cette mise à distance de 68. C'est-à-dire qu'en fait, les événements de 68 se font dans une demeure un peu extraordinaire bourgeoise, avec Piccoli, avec Dominique Blanc, célèbre pour une certaine scène, avec d'autres acteurs. Et c'est une mise à distance très originale de 68. C'est-à-dire 68 n'est vécu que par l'intermédiaire de la radio. Et donc là aussi, ça pose un peu question. C'est toujours cette mise à distance que fait Louis Malle. N'importe qui aurait mis sûrement des images d'archives pour ajouter. Et là, pas du tout. C'est une espèce de bulle qui se passe pendant 68. C'est assez troublant.
J'aime beaucoup ce film. C'est un film à revoir aussi. C'est un film un peu renoirien. C'est-à-dire que c'est un film choral avec plein de personnages.
On passe à la règle du jeu.
Avec des acteurs, Bruno Carrette malheureusement qui a fait pratiquement qu'un seul film, celui-là, Dominique Blanc formidable aussi, Piccoli en liberté qui fait un grand numéro, donc c'est un film vraiment film formidable, une comédie un peu loufoque qui montre aussi l'esprit un petit peu loufoque comique de Louis Malle, malheureusement qui est un peu sous-exploité, hein, mais voilà.
Oui, puis il y a cette actrice donc Paulette Dubost qui joue la morte. Donc la mort est omniprésente dans le film parce que le temps que les enfants reviennent de Bordeaux d'ailleurs en l'occurrence, ils disent cette femme est exposée à toutes ces ça dure au moins une bonne heure. Elle est exposée avant d'être enterrée. Je me rappelle plus comment d'ailleurs. Ouais, mais c'est un drôle de film, hein, c'est-à-dire
très étrange.
Il y a aussi cette impression que quelque chose est mort du passé, alors que 68 arrive, cette Paulette Dubost qui joue aussi dans la règle du jeu, hein, évidemment, dans les cuisines de la règle du jeu. Si je me trompe pas, mais je crois que je me trompe pas. Voilà, donc c'est un drôle de film que j'ai vu récemment, que je voulais pas voir parce que je trouvais l'affiche. Piccoli, rigolard dans l'eau, je comprenais pas qu'en fait il était en train de pêcher des écrevisses. Et donc ça m'a beaucoup fait rigoler. Et il pêchait des écrevisses pendant que les événements de mai 68 se passaient. Et donc il y a beaucoup aussi de mise à distance, d'ironie, de voilà. C'est un film très assez complexe. Hein.
Le problème, c'est qu'on est vraiment sur des a priori. Les films de Louis Malle ont souvent été écornés par la critique. Alors du coup, nous aussi, des fois, on est peut-être un peu influencés. Mais il faut absolument maintenant qu'il est mort depuis quasiment 30 ans même. Il faut absolument maintenant revoir tout ça pour se faire vraiment un avis parce qu'on s'aperçoit que
avec un festival associé à la population.
Non, mais on s'aperçoit que pratiquement tout est très très bien. Hein,
oui, parce vraiment. Que dans tous les films, en vous entendant, et puis les 3 ou 4 que j'ai revus, il y a une complexité contradictoire au sein de chaque film qui fait que sans cesse il change de pied et on est pris à revers par rapport à l'idée qu'on se faisait du personnage, de l'intrigue, de la manière de filmer, bon, des positions esthétiques ou politiques de Louis Malle.
Alors, moi, je conseille un film qui est très méconnu, qui s'appelle My Dinner with André, qui est un film magnifique.
Mais c'est presque un documentaire, alors, ça.
C'est très étonnant, c'est une conversation entre deux amis qui ne se sont pas vus depuis 30 ans, et tout y passe, l'amour, la mort, la sexualité, l'art. Donc c'est une conversation, ça dure une heure et demie, c'est un film magnifique, dans lequel, très autobiographique, dans lequel Louis Malle parle un peu de tout. Écoutez, c'est un film très audacieux, un film donc de sa période américaine, puisqu'il a quand même aussi, rappelons-nous, une période américaine. Donc My Dinner with André, c'est un film des années... les années 90 que pratiquement personne n'a vu, hein, mais qu'on peut trouver, que tu as vu, que tu aimes bien aussi.
Oui, beaucoup.
Hein, voilà, un film très étonnant quand même, très surprenant. Hein. Une heure et demie de conversation à table, ça parle dans tous les sens.
C'est du cinéma.
Et c'est du cinéma. Et c'est beau, c'est drôle, ouais, c'est émouvant.
Ça fait un peu penser à Stache avec sa maman, en fait.
Mais c'est un film incroyable. Donc il a aussi ce côté un petit peu expérimentateur de forme, cinéaste qui part un peu dans tous les sens.
C'est vrai que c'est un mot qu'on n'a pas encore employé, mais c'est vrai que c'est un expérimentateur. Oui. Lui-même, il dit que finalement, ce qui fait l'unité peut-être de son cinéma, c'est le voyage. Alors, bon, en prenant bien sûr le mot voyage à tous les sens possibles du terme, mais ce que vous dites m'y fait penser. Vous voulez bien revenir à Zazie
Juste ça. Oui, moi, j'ai un de mes amis qui dit, en fait, qui a dit ça. Louis Malle est un cinéaste de films, mais n'a pas d'œuvre. Alors là, on vient de prouver, je crois, enfin en tout cas on vient d'approcher ça, qu'en fait il y avait une œuvre. Alors, est-ce qu'il faut qu'une œuvre soit cohérente? C'est pas sûr du tout. Mais en tout cas, cet éclectisme-là, on voit bien les points d'acmé de plein de films qui viennent nous surprendre.